c'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûre de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré. Radio Campus, Paris.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce 7e épisode de Secret Livré, votre rendez-vous mensuel littéraire et historique, une émission proposée par moi-même, Claire, pour Radio Campus Paris. Vous nous écoutez donc au 93.9 FM. Alors aujourd'hui, évidemment, j'enregistre dans des conditions un peu particulières. Vous le savez, nous vivons une situation extraordinaire, confinée, avec assez peu de distractions, hormis celles que l'on peut trouver dans la maison. Alors si vous écoutez cette émission, c'est que vous vous êtes rendu compte que la radio fait partie de ces loisirs qu'on peut emmener partout, par exemple de la chambre au salon, ou du salon à la salle de bain, peut-être même jusque dans la cuisine. Enfin, les possibilités sont, vous le voyez, infinies. Merci en tout cas de rester avec nous en ces temps troubles. Bienvenue donc dans ce premier épisode enregistré en confinement. Évidemment, je ne suis pas au studio, je n'ai personne avec moi, donc pas d'invité. L'émission sera donc beaucoup plus musicale que d'ordinaire. Les paroles de spécialistes ayant été remplacées par des musiques. L'occasion donc aussi de se laisser porter par l'œuvre et la musique sans tout analyser tout le temps. Alors notre situation est donc particulière et j'ai pensé qu'il serait peut-être à propos de parler d'un livre qui évoque lui aussi en quelque sorte le confinement. Le personnage principal de cette œuvre ne choisit pas initialement son lieu de réclusion. On lui propose même le choix, à plusieurs reprises, de partir, quitter la prison, tourner les talons, laisser derrière lui les murs austères de ce fort qui, pourtant, semble lui voler les meilleures années de sa vie. Mais il ne le fait pas. À l'étonnement initial du lecteur, se substitue au fil du livre une compréhension nouvelle, une sorte de révélation même. La prison n'est pas contenue entre les quatre murs en pierre du fort, non, elle est ailleurs, et ailleurs cela peut être partout. Pour Giovanni Drogo, le héros du roman, elle est surtout dans son esprit. Il est prisonnier d'un espoir, victime d'une attente qu'il s'est infligée à lui-même et demeure éternellement en quête d'une gloire qui ne viendra jamais. Les années passent et Drogo ne s'en aperçoit même plus. Son isolement, son obstination à rester là où tous les autres décident de partir, tout cela, eh bien, sont devenus des actes de bravoure. Moi, au moins, je n'abandonne pas. Mais hélas, son courage n'a finalement de valeur qu'à ses propres yeux, et encore, tout compte fait, il ne vaut finalement pas grand-chose. Le roman d'aujourd'hui, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est « Le désert des Tartares », sans doute le livre le plus célèbre de l'écrivain Dino Buzzati. Il est paru en italien en 1940, et 9 ans plus tard, il est rendu accessible aux lecteurs francophones grâce à la traduction de Michel Arnaud. Il suit donc le lieutenant Giovanni Drogo, jeune soldat qui vient donc de terminer ses études à l'école militaire, et qui est affecté en ce début de carrière au fort Bastiani. Le vieil édifice se situe au seuil d'une frontière inactive depuis des siècles. Il se tient là, inerte, et de toute sa longue vie, il n'a jamais vu passer un seul ennemi. Il a vu, en revanche, défiler nombre de soldats, la plupart l'ayant quitté à la première occasion venue. Quand Drogo découvre les lieux au début, il comprend bien que le fort est un tremplin. On y vient pour accumuler des points pour sa prochaine mutation. Les années au fort comptent double, donc on y reste un peu, on montre que l'on en est capable, et puis on s'en va. Sûrement, on l'espère, vers une vie meilleure. Car le fort est un endroit austère. Pour y parvenir, il faut cheminer plusieurs jours à cheval sur des routes escarpées. Dans la chambre de Drogo, un bruit d'eau qui goutte l'empêche de dormir paisiblement. De toutes les hautes parois minérales du fort, une seule est percée d'une petite fenêtre. Depuis celle-ci, on voit la plaine du Nord, c'est le désert des Tartares. Il n'a de menaçant que le nom, toutefois, puisqu'aucun Tartare n'y a jamais été aperçu. Quand Drogo interroge le capitaine Ortiz, voici d'ailleurs ce qui lui répond.
Il y avait donc des Tartares. Autrefois, je crois, mais c'est surtout une légende, personne ne doit être passé par là, même durant les guerres de jadis. De sorte que le fort n'a jamais servi à rien. À rien.
La voix que vous entendez au passage, c'est celle de Guillaume Gallienne, vous le connaissez sans doute, qui a fait une lecture du désert des Tartares pour son émission « Ça peut pas faire de mal » diffusée sur France Inter. Je vous recommande vivement d'aller l'écouter, il fait vivre le texte, c'est vraiment très bien. Donc en résumé, Drogo est affecté à une frontière morte. Rien ne s'y est jamais passé, rien ne s'y passera plus. À son arrivée, il essaye donc de partir. Bien sûr, il est encore jeune et sa jeunesse lui donne la bougeotte. Mais on lui recommande de rester 4 mois. Après cette période réglementaire, en effet, il pourra se faire muter grâce à un certificat médical de complaisance. Bon, 4 mois, cela lui semble faisable. Alors il reste. Mais 4 mois s'écoulent et Drogo, finalement, s'est habitué à la vue presque mystique de l'immensité désertique et de la montagne éclatante que l'on aperçoit depuis la petite fenêtre. La ville, en comparaison, lui paraît morne et triste. S'il est soldat, c'est sans doute pour vivre en tant que soldat. Cela veut dire rester à son poste. Cela veut dire rester au fort. Et puis qui sait, peut-être montera-t-il en grade, peut-être vivra-t-il lui aussi des aventures mémorables. Alors, il reste. Évidemment, ce départ différé marque le premier d'une longue série. Drogo ne quittera jamais le fort Bastiani, pas même quand son état de santé lui ordonne de partir. Dans une sorte d'ironie ultime, il falsifie son certificat avec la complicité du médecin, afin non de pouvoir partir, mais de pouvoir rester. Le roman pose évidemment la question de la fuite du temps. Les années glissent sur Drogo, longues, lentes et à la fois terriblement rapides. Tout s'accélère à partir d'un certain âge, comme la seconde semaine des vacances qui passe toujours deux fois plus vite que la première. Il ne s'en est pas aperçu, mais le meilleur est derrière lui. Mais le livre nous interroge aussi sur la notion de courage et celle d'abandon. Il est impossible de dire ce que Drogo fait par lâcheté et ce qu'il fait par bravoure. En permission de 2 mois, après 4 ans au fort, il rentre chez lui. Il retrouve Maria, son amour de jeunesse. Il semble s'aimer encore, pourtant la perche que lui tend la jeune femme n'est pas saisie. Elle retombe mollement au sol et la discussion prend fin, lentement, naturellement, comme une goutte d'eau qui sèche au soleil. À la lecture, on a presque envie de lui crier « Mais remue-toi, ne vois-tu pas qu'elle t'aime ?» Il le voit. Cela lui semble pourtant désormais étranger. C'est un plaisir qui n'est tout simplement plus le sien, même s'il y a droit.
Mais quelque chose s'était vraiment glissé entre eux. Un voile indéfinissable et vague qui refusait de se dissiper. Peut-être ce voile avait-il grandi lentement, jour après jour, durant leur longue séparation de 4 ans, les éloignant l'un de l'autre à leur insu à tous deux.
Drogo est résigné, cet état entre résistance et lassitude. Autant rentrer au fort à présent, puisque c'est là sa maison. Même l'espoir qu'il entretient au plus profond de son âme, cet espoir d'une guerre incroyable dont il ressortirait héros, lui est finalement un peu effrayante. Un soir, apercevant au loin un mouvement, il se surprend à espérer que cela ne soit rien, qu'une ombre, qu'un rocher. Et pourtant, Dieu sait que Drogo rêve un millier de fois que les Tartares arrivent, qu'ils prennent le fort d'assaut et que Drogo, devenu capitaine peut-être, mène les troupes au combat.
For Frodo.
Cette bataille n'aura pas lieu. La forme noire qui bouge dans la longue vue, eh bien c'est un cheval. Un cheval sans cavalier. Puis, des années plus tard, il y voit des lumières. Cette fois, l'espoir est de plus longue durée. Oui, les Tartares arrivent, ils sont en train de construire une route. Oui, mais les travaux durent 15 ans. 15 années durant lesquelles Drogo s'enfonce de plus en plus dans un espoir qui semble figé. Il est impossible de savoir si la bataille même assouvira sa longue soif. À présent, il est surtout question de tenir bon aux illusions du passé. Sinon, finalement, tout le temps vécu entre les murs du fort aura été en vain. Mais il est bien question aussi de ça, de vanité, car Drogo attend la gloire qui le fera héros, comme le chante Brel dans sa chanson Zangra, qui lui est inspirée du roman.
Je m'appelle Zangra et je suis lieutenant au fort de Bellanzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros.
Quand la bataille arrive enfin, Drogo est en trop mauvaise santé. Trahissant ses propres attentes, il implore désormais Dieu de ne pas répondre à ses prières de jeunesse. Pitié, que l'ennemi attende encore un peu, le temps que je me remette. Ils ont bien attendu des siècles, ils peuvent attendre encore quelques minutes, quelques semaines. Mais ce n'est pas à Drogo de décider, ni même à l'ennemi. Il semble que le choix revienne à ce grand truc qu'on appelle le destin. et le destin se moque de Drogo. Au moment de diriger la contre-offensive, il est devenu maintenant commandant et numéro 2 du fort, mais il s'évanouit devant ses hommes. On emmène alors, sur une civière, un vieillard squelettique, vidé de vie et de sens à la ville. Sur le chemin qui l'éloigne du fort, Drogo croise des soldats qui, eux, montent au combat.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Je m'appelle Zangara et je suis lieutenant au fort de Bellonzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir les filles en troupeau, mais elles rêvent d'amour et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangara et déjà capitaine au fort de Bellonzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir la jeune Consuelo. Mais elle parle d'amour et moi de mes chevaux. Je m'appelle Zangara, maintenant commandant au fort de Bellonzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg boire avec Don Pedro. Il boit à mes amours et moi à ses chevaux. Je m'appelle Zangara, je suis vieux colonel au fort de Bellonzio qui domine la plaine, d'où l'ennemi viendra, qui me fera héros. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois, alors je vais au bourg voir la veuve de Pedro. Je parle enfin d'amour, mais elle de mes chevaux. Je m'appelle Zangara, hier trop vieux général, j'ai quitté Bellonzio qui domine la plaine, et l'ennemi est là. Je ne serai pas héros.
Di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me. è dolce il suo respiro fra i pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido. La stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti di inglese e matematica. Tuo padre, i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai. Chissà se tu mi penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me. Ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Non è possibile dividere la vita di noi due. Ti prego aspettami, amore mio, ma illuderti non so, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego aspettami, perché non posso stare senza te. Non è possibile dividere la storia di noi due, la solitudine fra noi, questo silenzio dentro me è l'inquietudine di vivere la vita senza te. Ti prego
so Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
Per mari che io lo so, no, no, se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte. Bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte. Visto che sono in tanti, fosse così, fosse così. Non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già, bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra. Che diventa di un solo colore, più vivo che mai. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così, che fosse così. Hanno creduto, cercato e voluto che fosse così. Stack molto
Secret livré.
Alors, je ne vais pas suivre la structure en trois temps de d'habitude, mais progresser plus organiquement selon les choses que je voudrais évoquer vis-à-vis de ce livre. Tout d'abord, quelques mots sur l'auteur. Dino Buzzati naît en 1906 à San Pellegrino di Belluno, excusez mon accent affreux, pas du tout italien, au nord-est de l'Italie. Il est fils d'un père professeur de droit international et d'une mère descendante d'une grande famille de notables de la région. Après des études de droit à l'université de Milan, il devient journaliste, reporter, critique d'art, enfin tout ça. Il affirme d'ailleurs qu'il a acquis, grâce à son métier, un goût pour les petites histoires de la vie, équivalent de faits divers, dont il se nourrit pour écrire. Le sujet est bien souvent assez quotidien, mais traité d'une façon extraordinaire. D'ailleurs, si vous vous rappelez, l'émission sur Flannery O'Connor, que j'ai traité donc dans Secret Livré, il y a là une ressemblance entre les deux écrivains. Elle disait vouloir écrire des choses extraordinaires sur un ton tout à fait ordinaire. Buzzati, lui, affirme, je cite, « Il me semble que le fantastique doit être aussi proche que possible du journalisme. Il ne s'agit pas de banaliser les choses, même si en fait il y a un peu de ça. Disons plutôt que l'efficacité d'une histoire fantastique est liée à l'emploi des mots et de paroles simples et les plus concrets possibles. » Il est l'auteur de nombreuses nouvelles, toutes assez géniales d'ailleurs, et on remarque facilement cette caractéristique dans son style. Par exemple, l'histoire d'un homme qui conduit sa vieille automobile au garage pour être mise en pièces. Elle ne roule plus depuis des années, autant la vendre. Sur le chemin, il se met pourtant à culpabiliser. La pauvre ne sait pas qu'elle vit là son dernier périple. En retour, la voiture, elle, prend vie, et ils dialoguent, tous les deux. Elle lui demande de ne pas la tuer, lui argumente un peu en retour. Cédant aux suppliques de la vieille automobile, cela dit, l'homme se convainc qu'elle a encore de beaux jours devant elle, et finalement qu'elle mérite mieux.
S'en aller tous les deux dans le sud de l'Italie. Et voir la vie en bleu, tout jouer sur un pari.
Arrivé devant le garage, qui lui en avait proposé une somme rondelette pourtant, il fait demi-tour et il s'engage sur une route de montagne en montée. La voiture fait de beaux efforts, mais son âge la rattrape. Et après ce merveilleux sursis, elle finit par déclarer forfait. Bien sûr, c'est en fait un dialogue entre l'homme raisonnable et l'homme passionné qui a lieu. Celui qui accepte de recevoir de l'argent pour une relique inutile du passé, contre celui qui est encore attaché à ce que la voiture représente pour lui de jeune, d'aventureux, de fringant. La voiture n'est finalement jamais mise en pièces. Elle retourne dormir au garage, pour toujours, sous son drap blanc. Dans le désert des Tartares, rien d'aussi fantastique. Le fort n'est pas hanté, l'ennemi n'est pas un fantôme, puisqu'à la fin, donc, on a droit à une véritable guerre. Mais le lieu de l'action est un puissant catalyseur pour des émotions plus quotidiennes, plus terre-à-terre que celles vécues par des soldats reclus dans un fort isolé. En gros, des émotions qui sont familières au lecteur. En effet, le fort constitue un déplacement physique et temporel à la fois, et c'est très important dans le roman. Il est incrusté, on dirait, dans des temps immémoriaux. Quand le capitaine Ortiz dit à Drogo que les Tartares sont venus autrefois, on comprend que le temps passe différemment au fort qu'ailleurs. Autrefois, c'est le temps des contes, c'est le temps des mythes. Il ne s'est rien passé autrefois qui nous affecte encore aujourd'hui. Premier indice donc, que cet endroit est plus qu'un lieu, plus qu'un repère topographique. Il est un espace mental. Deuxième chose, et toujours dans ce dialogue avec le capitaine Ortiz, Drogo est curieux, il n'a jamais vu le fort donc, et il veut savoir s'il a été affecté dans un lieu important.
Hier soir, dit Drogo, je l'ai vu de loin. Quoi donc ? Le fort ? Demanda le capitaine Ortiz. Oui, le fort. Il doit être grandiose, n'est-ce pas ? Il m'a paru immense. Grandiose, le fort ? Mais non, c'est l'un des plus petits, une très vieille bâtisse. Ce n'est que de loin qu'il fait de l'effet.
Ce rapport au près, au loin, est au cœur du roman. Le fort n'est impressionnant que de loin, car on ne distingue alors que la forme d'un bâtiment, et pour tout ce qu'on en sait, il pourrait être immense. Difficile de savoir sans éléments de comparaison. Vous savez, ces photos qu'on voit avec des insectes et une main posée bien à plat à côté pour montrer que c'est vraiment un très gros insecte, eh bien, il n'y a pas de main dans le désert des Tartares. De loin, on ne voit que l'horizon sableux et le fort. En s'approchant, le propre corps des soldats évidemment donne un sens des proportions. Ah, ce n'est pas si grand que ça, mais enfin, il faut être tout près. Et comme les lieux et ce qui s'y passe sont toujours très liés en littérature, eh bien, c'est pareil pour les rêves. Les rêves formulés au fort sont comme le fort lui-même, beau de loin. Le rêve de gloire de Drogo, beau de loin. Le rêve de bataille, séduisant de loin, vous avez compris. Quand tout se précipite, quand tout est tout prêt, on finit par voir les fissures et les défauts Et alors on se rend compte que l'œil nous a trompés. C'est une formidable anticipation finalement que ce dialogue avec le capitaine Ortiz. On comprend dès ce moment-là qu'au fort Bastiani, le temps est stagnant et la vue brouillée. Dernière chose à propos de ce dialogue, il a lieu au début du livre, lorsque Drogo chemine sur la route qui le mène au fort Bastiani pour la première fois donc. Il aperçoit Ortiz, le capitaine, il ne sait pas qui il est, mais il l'interpelle.
Il l'interpelle d'un cri maladroit qui se perd dans l'écho de la vallée.
Mon capitaine !
Qu'est-ce qui se passe-t-il ?
Rien, mon capitaine ! Je voulais seulement vous saluer !
Ici, Buzzati nous prévient. Lisez les 200 pages qui suivent si vous le voulez, mais il ne se passera rien. Le rapport à l'architecture est donc important dans le livre, c'est un thème cher à Buzzati, qu'il emploie d'ailleurs dans d'autres œuvres. Dans sa nouvelle 7 étages, on découvre un hôpital à donc 7 étages, dont les chambres les plus hautes sont destinées aux patients en meilleure santé. Le malade de l'histoire s'y trouve au départ, atteint d'un mal inexplicable, dont il ne sait rien et dont on ne lui dit rien. Il descend au fur et à mesure, d'étage en étage, sans jamais savoir pourquoi. Les raisons qu'on lui donne sont toutes vagues, semblent être des prétextes tous superficiels, comme des hasards ou des concours de circonstances. Le dernier étage, là où finit le patient qui finalement n'a rien compris, c'est le sous-sol, c'est le crématorium. Dans L'image de pierre, un autre roman, Buzzati donne littéralement une âme à une construction architecturale hors norme. Dans des montagnes reculées d'Italie, un chercheur éminent a fait construire une sorte d'immense labyrinthe en pierre, dont lui seul connaît toutes les galeries. Le mystère du labyrinthe est lentement mis au jour, et on comprend petit à petit que le scientifique a cherché à recréer dans cet édifice une ancienne compagne aimée et morte avant l'heure. Alors, évidemment, elle ne parle pas distinctement, mais on entend s'élever des parois une sorte de bruit, une sorte de murmure incompréhensible, sauf à certaines personnes qui arrivent à l'interpréter. Il ne s'agit pas de recréer la femme, mais de conserver son âme dans un matériau à toute épreuve, la pierre. Le roman est assez surprenant, scientifiquement je dois avouer pas très convaincant, mais bon, à la fin, la structure se rebelle, c'est ça qui est important. Elle se lamente d'être maintenue en vie sans pouvoir danser, sans pouvoir manger, boire et profiter de ce qui a été pour elle l'existence jusqu'à sa mort humaine. Une sorte de rebelote finalement de l'histoire des frères Peverell dans Harry Potter. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en gros, dans le conte, le second frère fait renaître, grâce à la pierre de résurrection, sa fiancée, mais l'affaire est un malheureux naufrage.
Pendant ce temps, le deuxième frère rentra chez lui et prit la pierre qu'il tourna 3 fois dans sa main. Pour sa plus grande joie, la fille qu'il avait espéré épouser avant qu'elle ne meure prématurément apparut devant lui. Cependant, elle resta triste et froide, car elle n'appartenait pas au monde des vivants. Rendu fou par un désir sans espoir, le deuxième frère se tua afin de la rejoindre. Et ainsi, la mort prit le deuxième frère.
Bon, mais surtout, cela illustre l'importance du leitmotiv architectural dans l'écriture de Buzzati, qui présente donc les lieux de l'action comme des entités et des personnages à part entière. Et le fort prend tout son sens, notamment parce qu'il est situé lui-même dans un lieu mystérieux. J'en ai parlé, c'est le désert. Ce désert autorise toutes les projections de Drogo. L'ombre qui y danse au loin accentue bien sûr la dimension rêvée de l'espace, mais en lui-même, le désert contient tout, à la fois le désespoir, le vide, mais aussi l'espoir, l'infini. On peut dresser un parallèle intéressant entre le désert des Tartares et la vision du désert que nous présente l'écrivain et cinéaste Pier Paolo Pasolini. On lui doit plusieurs films dits « choc », notamment son dernier, « Salo » ou « Les 120 journées de Sodome », sorti peu après sa mort, par assassinat, en 1975. Dans son film « Théorème », y est exposée la vision suivante du désert, je cite. « L'unicité du désert était toujours là, immuable, devant les yeux des Hébreux, qui toutefois, pour autant, n'en perdaient pas la raison. Et même, ils se sentaient accueillis par cette chose une qu'était ce désert qu'ils parcouraient, conscient, mais au fond désormais heureux de ne plus jamais pouvoir s'évader de ses confins indéfiniment lointains. Le désert est en effet un lieu marqué par le manque, manque d'eau, manque de civilisation, manque de repères. Toute satisfaction semble y être niée à l'homme. À la fois, il permet une sorte de rappel à l'ordre, face notamment à des sociétés parfois empêtrées dans des mouvements superflus, Pasolini était d'ailleurs très critique du consumérisme, par exemple, et de l'éthique bourgeoise italienne montante à son époque. Pour lui, le topos du désert permet cet acte de résistance, de transgression et de libération qui offre à l'homme un certain retour au sacré. Ce retour au sacré ne s'opère pas par l'Église, il n'est pas proprement religieux, non, mais par le rapport à son propre corps et à sa propre existence. En gros, en résumé, être dans le désert, c'est s'apercevoir que l'on est vivant. Et cette sorte de conscience existentielle coup de poing, elle, permet à son tour de repousser la satisfaction du désir à l'infini. Tout comme chaque mètre carré de désert est identique au voisin, aucun d'entre eux ne marque une fin. C'est comme la terre qui n'a pas de bord. L'horizon recule à la même vitesse que l'on y avance, et avec lui, le rêve s'éloigne comme un mirage sans jamais être assouvi, mais du coup, il garde l'espoir vivant. Alors vous me direz, c'est un peu déprimant tout ça, oui, mais c'est aussi rassurant. Drogo ne parvient pas à se faire aux attentes de la société. Dès le début du livre, juste avant de partir pour le fort, il se regarde dans la glace, et il se lamente. Il n'arrive pas à sourire. Il envie ses camarades, même dans les maisons voisines, qui embrassent leurs parents. Lui ne parvient qu'à esquisser une sorte de grimace artificielle. Quand il revient en permission après 4 ans au fort, on l'a vu, il ne renoue pas avec Maria, et auprès de sa mère, il est un étranger. On lui apprend quelques jours plus tard que les demandes de mutation ont été faites, sans qu'il ait été mis au courant. Il est toujours en retard, ou toujours à côté. Et c'est aussi pour cela que la vue de la montagne par la fenêtre du fort le rassure. Le désert aussi, sans obstacle ni repère. Les repères de Drogo finalement sont dans sa tête, de même que le dernier combat qu'il livre, le seul qui ait vraiment de l'importance, contre sa propre mort, seul, dans une chambre en ville, et ce combat se passe dans son esprit. Le livre nous explique, en fait avec poésie, grâce à l'espace du désert notamment, que l'esprit est le seul lieu qui compte et que le reste n'est que toile de fond. Et enfin, je voudrais seulement vous passer le témoignage de quelqu'un qui a autant aimé le désert des Tartares que moi. Il s'agit d'un homme politique français, le regretté François Mitterrand, qui parle ici dans l'émission littéraire de Bernard Pivot. C'était le 2 juillet 1975.
Ben c'est l'ennemi, c'est un symbole de tout ce qui va remplir une vie. Lui, le commandement nouveau, il est commandant en second, le fait descendre. Et il mourra seul, ignoré, sans avoir jamais rien accompli. Alors moi, je pense que c'est un accomplissement supérieur. Et que cet homme qui aura donc vécu ses 30 ans, d'abord en attendant autre chose, qui est purement matériel, puis en passant d'un plan à l'autre, en attendant autre chose, il ne sait pas trop quoi. Et puis cette autre chose, c'est simplement le printemps qui se marque par une seule fleur, parce que c'est un désert. Et un petit mouvement de mousse ou de lichen sur une pierre. C'est, je crois, une sorte de démarche symbolique de l'humanité qui en quête de son propre esprit, de sa propre connaissance, en même temps que c'est une littérature de l'effort et du courage, c'est-à-dire de ce que peut conquérir un homme sur lui-même lorsqu'il est amené à rester devant lui, mais aussi devant un paysage, celui de sa vie, qui ne lui apportera jamais ce qu'il attend. Et cependant, au moment où il va mourir, et c'est la dernière page de ce livre, il comprend que quand la mort pénètre dans sa chambre, soudain, la vérité.
Voilà, c'était un aperçu du désert des Tartares, grand roman de Dino Buzzati que j'adore, que j'ai lu 5 fois, que je vous conseille donc bien sûr très très vivement. Si vous le lisez et que vous aimez, n'hésitez pas à partager vos pensées avec moi. Vous pouvez le faire sur Instagram, @secretlivré tout attaché, c'est donc secretlivré sans accent tout attaché en minuscule, et sur Twitter au même nom. Alors en attendant, portez-vous bien, je vous souhaite bien du courage. Et on se retrouve le mois prochain pour une autre de Secrets Livrés.
Secrets Livrés.
Via, via, vieni via di qui. niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chiboom, chiboom, do 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 do, chiboom, chiboom, boom, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do, chiboom, chiboom, boom. Do 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 do.
Schizza e vai come un bolide, supera ogni stanza e poi ti ritrovi a petto nudo insieme a moglie e buoi. Senza ridere prendi tutto quel che c'hai, lo rovesci dal balcone, petti e te ne vai. Sei una rondine, minchia quanto grosso sei. Frigorifero a capanna proprio non saprei. Tutto inutile, senza padri, senza mamma, siamo battiti animali, siamo porci senza le ali, siamo un attimo di vento, io ti prendo non lo sento, dammi un attimo di mare, io lo sto per arrivare. Figli di puttana, senza padri, senza mamma, siamo battiti animali, siamo porci senza le ali, siamo un attimo di vento, io ti prendo non lo sento, dammi un attimo di mare. Sto per arrivare. Sento il vento e non ci sei. Mentre ascolto una canzone, metti in moto e vai. Verso un'isola, forse dove viaggerai. Dentro il tempo, l'universo, neanche tu lo sai. Sei un po' spastica, ma se fossi in te ci andrei. E nessuno dei tuoi amici lo direi. Non so chi sei, no. Siamo battiti animali, siamo porci senza le ali, siamo un attimo di vento, io ti prendo non lo sento, dammi un attimo di mare, io lo sto per arrivare. Figli di puttana, senza padri, senza mamma, siamo battiti animali, siamo
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi vero. Sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
Nobody
else than you.